Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1237 en ce samedi 11 mai. J'espère que tout le monde va bien. Toulouse actuelle avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Dans ce 1237e numéro en première heure, un nouvel extrait du disque du mois Crawling Kingsnake par John Primer et Bob Corritor. Le festival Band Blues fêtait fin avril sa 18e édition à Bain-de-Bretagne. J'en rentre avec de la musique plein la tête, mais aussi quelques mini-interviews baptisées Sorties de Bain. La première d'entre elles concerne Lucky Pepper, qui a vaillamment assuré sur la petite interscène, jouant 4 mini-sets entre les concerts de la grande scène. Le bordelais Jeffrey Lucky Pepper nous dit tout sur son groupe, les musiciens, le répertoire et comment suivre le groupe et son rock'n'roll bluesy diablement dansant. Et puis c'est le Normand Nicolas Laperruque qui est l'invité du 46e My Rockers. Il est question de sa carrière de chanteur, de son métier de journaliste automobile, mais aussi de l'une de ses passions musicales, le regretté Johnny Hallyday, chez qui nous piochons dans l'un de ses albums les plus blues, Rough Town, enregistré en 1994. Et puis en deuxième heure, ce sera Lenny Lafargue qui sera l'invité de toute la deuxième heure, qui nous raconte sa vie de musicien du côté de Bordeaux. Voilà, on démarre tout de suite, vous l'avez compris immédiatement, avec le disque du mois. John Primer et Bob Corritor s'appelle Crawling Kingsnake. Voici Gravel Road.
She won't even wash my clothes. She won't fix my breakfast. She won't even wash my clothes. And the gravel road. It was late one evening. People after the sun went down. Woman, she can't be found. Keep on fooling around.
C'était Bob Corritor et John Primer, l'album de John Primer, Bob Corritor, Crowning Kingsnake, dans lequel on trouve également Bob Struger à la basse, Wes Starr à la batterie, Jimmy Primetime Smith à la guitare et au chant, ainsi que le pianiste Anthony Geraci. Voilà, on poursuit avec Sortie de bain, numéro 1, c'est Jeffrey Lucky Pepper. Lucky Jeffrey Pepper.
Salut.
Salut.
Ça va?
Eh ben écoute, ouais, ben oui, ça va bien, surtout après t'avoir vu 4 fois, 4 concerts le même soir à Band Blues, c'est pas trop difficile?
Bah c'est un exercice, comme il disait, c'est nouveau en tout cas, première fois qu'on fait, 4 sets de 15 minutes.
4 sets de 15 minutes, comment on fait pour être chaud du début à la fin et puis dire au bout de la 16e minute, non, on laisse la place à quelqu'un d'autre?
Eh ben non, mais on est content parce qu'on a vraiment bien fait les sets, juste avant de jouer là, on s'est dit on va faire que des morceaux qui envoient déjà, pour qu'il n'y ait pas de temps mort, et bah c'est comme les morceaux sont énergiques, c'est facile de se mettre dedans.
Complètement, alors le répertoire c'est rock'n'roll,
rock'n'roll,
à l'essence,
ouais.
Et puis avec des petites pointes, enfin je sais pas, j'ai perçu des choses un peu swing, un peu... un peu vaudou, un peu garage, un peu...
Oui, c'est ça. Alors, ce soir, c'est particulier parce que, justement, on a fait que les morceaux qui envoient, donc on a fait moins de balades, de trucs, fallait être dedans, quoi,
tu vois.
Mais oui, effectivement, dedans, bah, c'est... le principal truc, c'est blues, évidemment, rock'n'roll, rhythm and blues. C'est vrai qu'il y a des points de garage, peut-être une énergie un peu punk aussi, des fois.
Il y a un truc qui a fait vachement du bien à tout le monde, c'était lors de votre dernier set. C'était un peu le cas au début, mais c'était surtout vers la fin. Les gens dansaient, les gens se libéraient.
Ça, sur c'est la... trop cool.
Votre répertoire, il est fait pour le fun, il est fait pour la danse.
C'est fait vraiment pour ça, pour que les gens soient à fond. Et c'est là que justement, on prend vraiment notre pied. Et que nous, en tout cas, on a l'impression d'être les meilleurs, quoi. Enfin, tu vois, on donne le meilleur de nous-mêmes quand les gens sont à fond. Et c'est là qu'il y a un échange et on tripe à fond.
Alors, la formation qu'on a vue ce soir, tu peux nous donner le nom des musiciens qui t'accompagnent?
Alors, au piano, JP Cardo. À la basse, Julien Lacombe. Batterie, Rémi Puglisi.
Moi, et ça, c'est le line-up habituel?
C'est le line-up habituel.
Ça fait combien de temps que vous jouez dans ce quartet précisément?
Alors avec Julien et Rémi, ça fait 3 ans et JP a intégré le groupe il y a 2 ans.
Et puis les endroits qui vous accueillent le plus souvent, donc on va rappeler que vous êtes de la région de Bordeaux.
Ouais, Bordeaux, Dordogne.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits écumés à Bordeaux en 2024 encore?
Ou moins qu'avant.
Moins qu'avant.
Et surtout des endroits où on peut vraiment se lâcher, le volume, tout ça, c'est compliqué.
On peut retrouver, je pense aux auditeurs qui vont écouter bien sûr une partie de votre répertoire sur disque, et puis à la radio, on peut vous retrouver où? Il y a des réseaux sociaux?
Bien sûr, alors Lucky Pepper, LUCKYPE2PER, j'appelle parce qu'il n'y a pas bien forcément sûr. Que des anglophones. Donc Facebook, Instagram, YouTube, et le site internet LuckyPepperProd.com.
Les plateformes, pas
plateformes encore. Spotify.
Ouais, aussi.
Ouais.
D'accord.
Enfin, toutes les plateformes.
Toutes les plateformes. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver la musique un peu partout.
Ouais.
Le dernier album, il est sorti...
Le 31 octobre 2023.
2023, ça reste super récent.
C'est très récent. Là, on est en pleine tournée d'album, justement.
C'est super. Alors, Bad Blues, ce soir, c'était une première. Est-ce que tu connaissais le festival, déjà?
Ouais, j'avais souvent entendu parler.
En tant que musicien, en tant que spectateur, ou juste entendu parler?
J'ai entendu parler hyper souvent, comme quoi c'était un super festival avec une super ambiance. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait le faire.
Mmh.
Donc on est content. Et en plus, ce soir, il y avait plein de potes, de groupes, copains, les Freaky Buds, Sylvain qui joue avec Drew Davis. Voilà, il y a Lilou qui était là hier, des Cactus Candy, qui est revenu ce soir, c'était bon, voilà, super quoi.
Et puis Thibaut Chopin
évidemment, voilà. Bien sûr.
Bah super, écoute, ce qu'on souhaite c'est que ça continue. Il y a d'autres festivals qui sont prévus cet été?
Ouais, alors là le prochain c'est le Boogie Bob Show qui est en Vendée.
Mmh.
Donc c'est un festival plus orienté 50-60 autour des voitures américaines, mais c'est vraiment un truc bien garage, bien, ça c'est cool. On fait Musicothèche, donc ça c'est généraliste. On fait le Mondor Retro Festival.
Ah oui, juillet.
On fait les Rendez-vous de l'Herbe en août, Montfort Blues Festival en novembre.
Montfort Blues Festival.
Fier Blues.
D'accord.
Et bon, après, tous les festivals en Dordogne, MNOP, Doucha Blues, ça on le fait.
En tout cas, voilà, toutes les dates, tu l'as dit tout à l'heure, sont sur le.
Ouais, il y a tout sur le. Ouais.
Voilà, super. Bah, écoute, encore bravo parce que.
Merci.
On a trouvé que c'était une belle énergie. Enfin, quand je dis on, voilà, les
on
gens qui
en
ont parlé. Et puis, il n'y a pas d'esbrouf, quoi. Il y a des solos sont relativement courts. Il y a un format un petit peu jukebox, en fait, au niveau de la longueur des morceaux.
Ouais, alors.
C'est voulu ou c'est.
Non.
C'est voulu pour ce soir, peut-être.
Alors, effectivement, c'est voulu pour ce soir, mais en même temps, par exemple, si on écoute l'album, les morceaux, genre. Rarement plus de 3-4 minutes, et je trouve que c'est un timing qui correspond bien à ce genre de musique où quand t'es dans l'énergie tu peux pas faire des morceaux de 6-7-8 minutes, et autant tu vas moins à l'essentiel, tu rajoutes des trucs. Nous on aime bien aller à l'essentiel, efficace.
Un dernier mot, Geoffroy, si on donne quelques noms de style, tu vas penser tout de suite à quoi si je te dis rock'n'roll?
Dur.
On élimine le deuxième directement.
Dur, il y en a
sans
un
réfléchir.
Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Link Ray.
Ah oui,
Link Ray. Donc c'est plus instrumental, mais j'adore.
Si je te dis blues,
celui qui m'a beaucoup influencé en blues, c'est Johnny Guitar Watson.
Ah ouais.
Ouais. Et tout ce qui est Mississippi aussi, ça me parle beaucoup évidemment. Ça s'entend un peu. Évidemment, blues louisianais. J'aime bien ce côté. Ce que j'aime bien dans le blues louisianais, c'est que c'est beaucoup de mélange. J'aime bien prendre de tout un peu partout.
Complètement.
Ça, je trouve ça cool. Ouais. Puis après, en rhythm and blues, Larry Williams.
Très bien. J'ai l'impression que ton pianiste a pas mal écouté Jerry Lee Lewis notamment.
Ah ouais, bah c'est un énorme fan de Jerry Lee Lewis, ouais, évidemment. Oui. Little Richard, tout ça. Ouais. Okay. Mais ça tombe bien, parce que j'adore le piano. C'est vraiment mon instrument phare. Je crois que j'aime plus le piano que la guitare.
Donc voilà, une rythmique solide avec piano, guitare et puis chant et puis les gens qui sont devant. Enfin,
c'est le meilleur.
On partage de la musique.
Ouais, carrément, c'est le meilleur. Ouais.
Merci, on te souhaite de continuer encore bien longtemps.
Merci
et puis
beaucoup.
Une visite sur les réseaux puis sur le site.
Ouais.
On rappelle l'adresse du site.
LuckyPepperProd.com.
Merci à toi.
Merci à toi.
À bientôt.
Salut.
Sortie de bain pour le festival Bain de Blues, dans deux semaines, on aura la suite avec Zachary Defoe. Et tout de suite, on poursuit avec My Rockers numéro 46 avec notre invité Nicolas Laperruque. My Rockers numéro 46 aujourd'hui dans Sweet Home Chicago avec un nouvel invité, Nicolas Laperruque. Salut Nico.
Salut.
Très heureux de t'accueillir, surtout que figure-toi, tu arrives juste après Michel Benjeloun, Axel Bauer, Emmanuel Desnaux, Gaël Busvel, enfin il n'y a que du beau linge dans ce...
T'essaies de me mettre la pression là.
Non du tout, tu vas voir. Ou la pression des pneus peut-être, on verra ça tout à l'heure.
Ouais.
Et alors Nicolas, en quelques mots, tu peux nous dire un petit peu ta passion de la musique, pourquoi, comment c'est arrivé quand t'avais 12 ans et demi, la musique en général.
La musique en général. Alors tu sais, moi j'habitais dans un bled paumé au fin fond de la Normandie où la culture n'est pas arrivée jusque là-bas.
Si, l'agriculture peut-être.
L'agriculture. Et en fait, quand j'étais gamin, il y avait une médiathèque qui était pas mal à Bayeux, toi, ou quoi.
Oui.
Avec des milliers de CD et beaucoup de trucs. Donc j'ai découvert ça, tu vois, toutes les semaines on a en cherché des CD. Et donc j'avais, ouais, je sais pas, 9, 10 ans, 11 ans, tu vois.
D'accord.
Bon, je savais déjà ce que je voulais écouter, tu vois, mais c'était plutôt du rock et du blues, effectivement. Mais
déjà.
J'ai commencé, du coup, un peu par les grands classiques, tu vois, les Stones, Dire Straits et compagnie.
Et là, on est quoi, dans la fin des années de 1980?
Ouais, moi, je suis né en 80, donc 90.
Ouais, 90,
par là,
90 ouais, bien sûr. Et musicien dès le départ ou pas forcément?
Pas du tout.
Mélomane?
Ouais.
Alors, auditeur?
Oui, oui, oui. Et en fait, ça, moi, j'ai commencé à chanter bien après, tu vois. En fait, la première expérience, tu vois, c'est un peu marrant, mais quand on avait 16-17 ans, on sortait dans une boîte là, qui s'appelait La Queue du Chat. Ça,
oui,
ça va parler à tous
ça,
les
ça
mecs
parle.
De Bayeux et d'alentour.
Mais oui.
Et en fait, tu avais cette boîte où j'allais régulièrement. Juste en face, sur le même parking, tu avais le 25+.
Mm-hmm.
Donc c'était un club, tu vois, réservé aux 25 ans et plus, comme son nom l'indiquait. Ouais, j'en avais 16-17, mais je faisais un peu plus. Et donc, tout l'intérêt de ce truc-là, c'est que tu avais une scène, en fait, avec un karaoké, mais karaoké plus, tu vois, avec une vraie sono, machin, des micros qui marchaient et tout, tu vois. Et donc, j'ai commencé à chanter là-dedans, tu vois.
Donc,
en fait, je me pointais dans le bar, en général, il n'y avait personne, tu vois. Du coup, je me suis dit, oh, tiens, je vais essayer d'en chanter une. Puis, en fait, j'en ai fait 10, 15. Et en fait, on revenait tous les week-ends. Donc, ça, ça a duré, je sais pas, 2, 3 ans, tu vois. Et puis, après, tu vois, j'ai commencé, enfin, j'ai fait des études vite fait, mais j'en ai fait quand même. Donc, je suis parti, machin, puis j'ai jamais rechanté, tu vois. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai acheté une guitare. Donc, j'avais, c'était plus tard, hein, j'avais 23, 24 ans, peut-être.
Ouais,
hein.
Ouais.
Et à Bayeux, tu avais un guitariste qui s'appelait Sylvain Gambine.
Salut Sylvain, si tu nous écoutes, bien sûr.
Et il donnait des cours de gratte. Donc j'avais vu, bon, tout le monde connaissait Sylvain Gambine à Bayeux.
C'était déjà un killer. Hein.
C'était déjà un killer depuis bien longtemps. Et je suis allé le voir avec ma pelle et tout. J'ai dit, tiens, tu veux pas me donner des cours et tout. Ouais, ok. Donc il m'a donné 3-4 cours. Quoi. Il s'est passé un truc au bout de 3-4 cours. Il m'a rien demandé, il m'a regardé, il m'a dit, tu veux pas chanter plutôt?
Pourquoi? D'abord, t'étais gaucher, droitier?
Non, j'étais droitier, mais j'étais pas très doué, quoi.
Oui, mais au bout de 3-4 cours, il faut quand même peut-être persévérer.
Oui,
un
oui,
petit
non,
peu
mais
plus,
on est d'accord, mais je pense qu'il a décelé le potentiel du mec, toi, il s'est dit. Non, il a des trop gros doigts, ça va pas le faire.
C'est vrai?
Non, non. Donc, et du coup, il me dit, tu veux pas chanter plutôt? Bah, je sais pas, et tout. Et puis, en fait, il m'a pas laissé tellement le choix, c'est que je suis allé le voir en concert quelques semaines plus tard.
Ouais.
Et à un moment donné, il a dit, ah ouais, on a un invité et tout, il s'appelle Nico. J'ai dit, ah tiens, c'est marrant, il y a un mec qui s'appelle Nico qui va chanter. Puis tout le monde m'a regardé, donc j'ai compris que c'était plutôt moi. Et donc, je suis allé chanter avec lui. Et tout.
Mais c'était quel style? C'était en français, en anglais?
Ouais, je sais plus ce qu'on avait fait exactement.
C'était un groupe de reprise, c'est ça?
Oui, il faisait, il jouait dans plein de groupe, mais c'était un groupe de reprise et
avec Nathalie Drey peut-être
Non, c'était avant ça encore, ouais. Tu vois, c'était, je crois que c'était le Petit Véhicule à l'époque, c'était un groupe sur Bayeux, toi. Et donc j'ai commencé à faire de toi, il venait taper le bœuf, toi, de temps en temps, quoi. Puis il y a une fois, je crois qu'ils avaient, je sais plus, il y avait un problème, le chanteur était pas là, on avait monté un truc à l'arrache, donc je me suis retrouvé à bosser 10 morceaux, tu vois, genre pour le lendemain, toi.
Ah ouais.
Et puis en fait, de fil en aiguille, après j'ai commencé un peu à chanter.
Et ensuite, ça a donné la carrière que l'on connaît avec un album sous ton nom.
Alors il y avait eu déjà, en fait, j'avais monté un groupe un peu plus tard, toi, dans la Manche, avec des potes. Il y avait Vincent Léher, je sais pas si t'as déjà dû le rencontrer ce mec.
Non.
Et on a essayé de monter un groupe dans la Manche. Il manquait toujours un mec, en fait. Le bassiste, il venait pas, ou alors c'était le batteur. Enfin, c'était un peu compliqué. Et on avait écrit quelques morceaux.
Ça nous renvoie à une chanson de Laurent Choubrac, ça. Répétition.
Ouais, donc c'est pas si simple, toi, de monter un groupe.
Mais bien sûr.
Dans le sud Manche.
Jamais à l'heure, même si personne n'est en retard, il faut bien se donner de l'ardeur avant de prendre le vrai départ. Accorder les guitares, faire chauffer les amplis, changer tous les fusibles et monter la batterie. Les jours où tout le monde est en forme, même si ce n'est pas assez souvent. Vraiment pas besoin de métronome pour qu'on soit tous dans le temps. Parfois c'est chacun tient, mais ça reste provisoire. Il y a toujours quelqu'un pour s'en apercevoir. Répétition. On voit pas le temps passer, répétition. J'ai tout désaccordé, on s'est encore planté. Il faut recommencer.
donc on avait écrit quelques titres, tu vois, on avait composé. Et moi, je vais commencer à écrire des textes.
D'accord.
Et il s'est passé un truc. Il y a eu à l'époque, je pense que tu te rappelles, il y avait eu à Condé-sur-Noireau la fermeture de l'usine Honeywell.
Oui.
Et en fait, cette usine-là, si tu veux, c'est une usine qui fabriquait des plaquettes de frein, tu vois. Et c'était en plein dans le vallée de l'amiante qu'on appelait ça, tu vois.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, avant, ça s'appelait Ferrodo.
Ferrodo. Ben oui, il y a encore plein de gens qui sont en procès avec cette boîte.
Et moi, en fait, mon grand-père avait bossé là-bas. Il était mort de l'amiante, ma grand-mère aussi, tu vois. Et j'apprends un matin, en fait, la fermeture de cette usine et tout, qui était en fait délocalisée en Roumanie. Et je sais pas pourquoi, enfin, il était 4h du mat, ouais, je rentrais de chez Pudou. Je devais pas être frais non plus, tu vois. Et je me mets à écrire, vu que j'écrivais des chansons en ce moment-là, ouais, je me mets à écrire un texte là-dessus, toi, que je ponds en 10 minutes. Toi. Et du coup, il était 4h du mat et je l'envoie à mon pote Arthur Alizard. Donc Arthur, il a joué notamment dans... Bon, il a fait plein de trucs, mais il a joué dans le groupe Grandville à une époque.
Ouais.
Là, il s'est lancé d'ailleurs en solo, là, il fait pas mal de choses. Alors, Arthur était comme moi à 4h du matin.
C'est de la même famille que Pascal Alizard.
Exactement, tu vas voir le lien, justement.
Voilà.
Et donc, je lui envoie le texte. Et je dis, tiens, j'ai pondu ça et tout. Il me dit, mais attends, il me dit, envoie ça à mon père. Et donc, je crois qu'à l'époque, je savais même pas que son père était...
le maire de Condé.
Était maire de Condé à l'époque. Oui. Et je dis, ah bon, tout. Il me dit, bah oui, c'est le maire de Condé. Il me dit, il est sur le dossier 24 heures par jour. Il me dit, toi, là, ça va lui faire du bien d'entendre ça, toi. Bon.
Ouais.
Donc, j'envoie le il est 4 heures du matin, toi. J'envoie le texte à Pascal Alizard sur son mail, tu vois. Il me file son mail ou je sais plus quoi. Et bim, 4h02, il me répond, toi.
Ah ouais.
Et il me dit, attends, il me dit, faut qu'on se rencontre, là. Il me dit, va faire un truc et tout. Tu vas faire une chanson, tu vas chanter. Ouais, calme-toi. Et donc, bref. La semaine d'après, je suis allé déjeuner avec Pascal et il m'a dit, écoute, on va faire un truc, c'est que on va enregistrer la chanson, on va te produire le truc et on va la vendre au profit des salariés. Toi.
D'accord.
Donc ça s'appelait Boomerang. Et donc, une semaine après, je crois, j'étais au cargo à Caen, donc j'avais fait appel à mes potes. Il y avait Sylvain Gambini qui avait fait les grattes. Il y avait Thomas Delaney de la Choucrave qui avait fait la batterie.
À la basse, c'était son frère Franck, peut-être.
La basse, c'était Sylvain aussi qui avait fait la basse.
D'accord.
Il me semble. Donc j'avais repris un des titres qu'on avait fait. Une des musiques qu'on avait fait avec mon groupe naissant, on va dire, qui était un peu en train de, en plus de, on savait qu'on allait rien faire, donc on avait repris ça et ça collait un peu avec le texte. Et donc, a sorti un single, tu vois, à l'époque, qui a été vendu au profit des salariés, tu vois. Et puis, bah, en fait, tu sais, une semaine après, on m'a dit, ah, tiens, faut que tu joues au cargo. J'ai dit, ah bon?
Le cargo, quand même.
Quand j'y baissais, c'était vraiment à l'arrache. Je faisais la première partie de je sais plus qui, enfin bref. J'ai rien vu venir, donc j'ai dit, ah merde, il me faut des musiciens et tout. Donc, j'ai commencé à faire une petite équipe, tu vois. Puis, en fait, on a commencé à faire des concerts.
De ton building du New Jersey, tu as choisi de te séparer de cette petite usine paumée où tu n'as jamais mis les pieds. Le fonds de pension et ses retraités t'ont demandé d'effacer un petit point rouge dans une vallée. Le dossier déjà archivé. Ce matin, ta secrétaire a reçu un courrier du maire de ce village de Normandie qui te demande de changer d'avis. Ces Français, leur manie, vont pas changer ta stratégie. Toi, ta réunion à midi t'ouvre une usine en Roumanie.
Et l'album, il est né un petit peu après.
Ouais, et l'album, donc ça c'était en 2012 par là. Et l'album est sorti en 2015. Donc on a commencé à bosser dessus avec Arthur aussi, avec Arthur Alizard. En fait, il y a un moment, je me suis dit, ouais, toi, quitte à faire des concerts et tout. Enfin, j'aimais bien faire des reprises et tout, mais toi, j'avais envie de créer des trucs. Et j'avais plein de textes, en fait, que j'avais écrits. Et donc, Arthur m'a dit, bah attends, on va faire ça, mon gars. Donc, ce garçon est d'une efficacité rare, si tu veux. Donc, un jour, il me dit, bah viens, emmène tes textes et tout. Donc, je lui emmène un texte. Hein. On se barre, on rappelle, on s'était barré à la plage. À Vierville, toi. Il avait emmené une pelle, toi. En 5 minutes, il m'a pondu un truc, toi. On est rentré chez lui, clac, 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 il a enregistré une maquette.
D'accord.
Et ça a pris 2 heures, toi. C'est marrant, c'était le premier titre, ça s'appelait Piscine.
J'avais revendu mes guitares, comme s'il était déjà trop tard. Laisser ma voix au fond d'un bar, oublier mes rêves de rockstar.
Dans un carton j'ai entassé tous mes souvenirs de couche-tard, mes partitions dans un grenier, comme une pitance à des cafards, existence capillotractée. Petit matin, entré trop tard, j'en pouvais plus d'accumuler des pénalités de retard. J'ai touché le fond de la piscine, j'ai couché ces quelques lignes. Quand une sirène est apparue, le son de ma voix est revenu.
Bah, le lendemain, il m'a fait écouter le truc. J'ai dit, en fait, c'est exactement ce que je veux. Et en fait, j'allais le voir. Donc, à l'époque, il était en tournée avec Granville, toi. Il faisait les premières parties dans les Zéniths et tout. Avec Lilywood and the Prick, je crois, des trucs comme ça, toi. Donc, il n'y avait pas trop de temps, moi non plus. Donc, en fait, on se voyait, une après-midi depuis 15 jours. J'arrivais avec mon texte. Composer la chanson.
Et là, on est sur.
Et je repartais le soir avec une maquette qui était magnifique, quoi.
Incroyable.
Donc, on a fait ça pendant. Bah, du coup, vous se voyez, tous les 15 jours, 3 semaines, ça a peut-être pris un an, l'histoire, ça. On a été l'enregistrer au studio Pick-up aussi.
Oui, à Caen.
À Caen.
Et là, on est sur de la chanson rock, du rock en français.
Ouais, donc c'était du rock en français, effectivement.
Avec que des morceaux originaux. Hein.
Ouais, que des morceaux originaux. Ouais. Que des morceaux composés par Tur, sauf un. Il y avait Alexandra Dnac qui m'avait fait un morceau au piano. Et tous les textes que j'avais écrits, en fait. Ouais.
Des inspirations pour l'écriture. Est-ce que c'était la vie d'une manière générale, ou est-ce que tu t'es inspiré des artistes que tu aimais, tout simplement ?
Non, c'était vraiment des trucs assez personnels, toi.
Si on devait faire écouter un extrait à nos auditeurs, ce serait quelque chose de représentatif.
Écoute, tu sais que ça fait des années que j'avais pas écouté l'album.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est con, mais quand tu fais un album, en fait, tu l'entends tellement. Enfin, toi, tu fais
on n'arrive pas à se détacher.
Pendant un an, après, il sort, tout le monde te le fait. Enfin, tu vois,
t'as le nez dans le guidon, quoi.
Tu passes 10 jours en studio, donc en fait. Et au final, si tu veux, j'ai jamais vraiment à écouter. Enfin, j'ai écouté, bien sûr, des petits morceaux de temps en temps, mais je ne passe pas mes journées à m'écouter.
Oui.
Et il n'y a pas longtemps, j'ai réécouté, en fait. Et il y a un morceau que j'aime particulièrement, c'est Je tutoie les anges. En Espagne, au cabaret normand, en face la Grande-Bretagne, je découvrirai l'Orient. Depuis que tu n'es plus là, que j'ai muté sur moi, depuis que mourir sous, c'est mourir debout. La rigolade s'organise pour un prince de la cuite, un torero en fuite. J'aurais pas le vin petit, ni même l'ivresse mesquine. Je dériverai ici la démarche taquine. Les anges, pour oublier ta frange, ma passion d'imprévu. Depuis, je ne te vois plus.
voir la mer comme un feu d'artifice au bord du précipice. On se délie les langues le long du Yangtze Kiang. J'unis les bras en croix au pied de l'hôtel Stella. Je tutoierai les anges pour oublier ta frange. Ma ration d'imprévu, depuis je ne te vois plus. C'est vrai, j'ai vu la mer, je peux pas aller plus loin. Comme un singe en hiver,
en fait, tu vois, ça sera à refaire, c'est peut-être celui que je sortirai en premier, enfin, tu vois.
D'accord. Tu veux dire dans l'ordre des morceaux
Ouais, ou en tout cas, parce qu'on avait fait un clip et tout au départ, ouais. Tu vois, j'aurais peut-être commencé par ça.
Bon, ouais. Mais après, il reste à remonter le groupe, avec ou pas les
fait,
mêmes musiciens.
Oui, mais tu sais que des fois, ça me titille.
Eh bah oui, parce que là, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que cette carrière s'est arrêtée d'être parce que ton autre grosse activité, et puis on va dire ta profession de journaliste automobile, te prend 24 heures par jour.
Et ce qui est, ouais, ce qui est marrant, c'est que, en fait, depuis que j'étais gamin, je voulais être journaliste auto.
Ouais.
Bon, quand t'habites à Lacambe, tu vois, un village de 500 habitants dans le fin fond de la Normandie.
Il y a beaucoup de touristes qui viennent à Lacambe. Hein. Il y a le cimetière allemand que tout le monde connaît.
C'est vrai.
Et, oui. Et puis, donc, de toute façon, c'est la route obligée entre Paris et Cherbourg.
Exactement.
Ouais, y a quand même du
mais
passage.
Sauf que, bon, tu passes à côté si tu regardes bien.
Tu
passes pas dedans.
Non, non. C'est sûr.
Et moi, j'avais fait pareil, j'étais un peu passé à côté. Et donc, si tu veux, bref, tu sais, quand t'arrives au collège et qu'on te sort le classeur des métiers, là, ouais. Bon, c'était pas dedans, quoi, clairement. Et donc.
Il y avait gardien de cimetière, sinon.
Il y avait gardien de cimetière. Et donc, en fait, je sors cet album, toi. On se démerde pas trop mal, toi. On fait quelques émissions de télé, de radio, de machin. Et je fais une promo un jour.
Tu vas voir Jacques Perrotte, par exemple.
J'avais vu Jacques Perrotte. Ouais. C'était extraordinaire.
C'est pas le blues ce soir. Et pourtant, c'est la nuit du blues. C'est formidable. Ça aide justement à aller beaucoup mieux avec la nuit du blues au Zénith de Caen.
Oui, mais il faut remercier Jacques Perrotte. Parce que, tu vois, c'était le seul. Quand tu sortais un truc, un album, tu vois, c'était la seule télé que tu pouvais
c'est
espérer
vrai.
Faire.
Là où ça bouge. Là où ça bouge. Ah, Jacques Perrotte, qui avait été il n'y a pas très longtemps aussi l'invité de cette même émission, My Rock Yours, Jacques Perrotte, qui prend sa retraite très bientôt, mais qui continue sa propre carrière de musique.
Il a fait un paquet d'albums
manière.
Aussi, lui. Hein.
Il avait choisi The Cars, lui. Hein,
ah oui, tu vois.
Voilà, un truc des années 70, tout simplement.
Et donc, je fais une promo, je fais un truc sur YouTube à l'époque, ça, et je tombe sur des journalistes auto, en fait.
Ouais.
Renaud Roubaudy et Cédric Fréour. Ces garçons ont changé ma vie. Et du coup, on passe un bon moment et tout. Le mec, je lui dis, bah tiens, j'ai des potes qui collectionnent des bagnoles, viens faire une émission à Bayeux et tout. Et puis en fait, il y a un moment, je lui dis, mais en fait, comment vous en êtes arrivé là, les gars? Et le mec, il me dit, non, mais il me dit, attends, t'as pas besoin de diplôme, tu sais à peu près écrire, tu connais les bagnoles, c'est bon, quoi, toi.
Voilà.
Il me dit, t'auras pas de mal à être aussi bon que...
Que certains.
Que certains. Et donc, j'ai commencé à écrire pour un blog à l'époque qui a explosé complètement. Enfin, tu vois, on a fait un gros... Ça avait cartonné, quoi.
Qui s'appelait comment?
Qui s'appelait Boîtier Rouge. Bon, ça, l'histoire, le mec s'est barré avec la caisse. Enfin, bon, bref. Mais du coup, ça m'a quand même mis le pied à l'étrier, tu vois. Et quand j'ai quitté ce truc, au bout d'un an, il y a le Dauphiné qui m'a appelé, tu vois.
Le Dauphiné libéré, carrément.
Ouais. Et qui m'a dit, écoute, on a besoin d'un mec pour faire la bagnole.
Et donc, tu me disais en antenne tout à l'heure, je bosse pour le Dauphiné libéré depuis plusieurs années, mais j'ai jamais foutu les pieds à Grenoble.
C'est beau, hein, ça fait 7 ans bientôt, je crois.
Ouais, merci merci Internet. Ouais. Et tous les jours, tu fais un papier?
Ouais, j'en fais au moins 30 par mois pour eux. Toi, donc, ouais. Et du coup, j'ai jamais foutu les pieds au bureau. C'est assez marrant.
Il y a d'autres magazines ou d'autres blogs dont tu t'occupes, dans lesquels tu
ouais, ouais, des choses? Je bosse un peu pour l'Argus aussi,
ouais.
Qui est un peu la référence des médias auto. C'est un truc qui existe depuis, je pense,
depuis
depuis
l'automobile.
Au moins 100 ans. Ouais. Et je bosse pour un éditeur qui s'appelle Riva Édition, qui fait plein de magazine sur les voitures anciennes, donc des trucs comme Nitro, t'as dû connaître ça,
oui,
Nitro,
oui.
Ça existe encore, toi.
Nitro peu, mais
voilà,
ouais.
C'est ça, Vintage Racer, enfin des trucs comme ça, quoi. Et puis bah moi en fait je suis indépendant, donc je peux bosser un peu pour n'importe qui.
C'est ce qu'on appelle un journaliste freelance.
Exactement. Mm-hmm. Et il faut bosser pour plusieurs parce que c'est compliqué.
À moins d'être journaliste vedette dans un grand journal, genre New York Times, etc.
C'est ça.
Et alors, est-ce que ça t'a donné envie de continuer? C'est ta principale activité, oui, on l'a dit, bien sûr, le journalisme automobile. Ça te donne envie aussi, peut-être, d'écrire pour des journaux étrangers, européens,
américains? Alors, j'ai fait, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que j'avais fait un... c'est rigolo. J'avais écrit pour un magazine russe.
Ah ouais? Parce que tu connais ton alphabet cyrillique par cœur.
Exactement, hyper connu en Russie. Commencé à faire des trucs pour eux et tout. Moi, je crois que 15 jours après, Poutine a envahi l'Ukraine. Donc, c'est un peu compliqué le truc. D'accord. J'ai arrêté. Mais oui, tu vois.
Maintenant, tu chroniques les chars.
C'est ça. On était plus sur la même longueur d'onde, du coup.
Ouais, bien sûr.
Une nouvelle Renault Alpine a été commercialisée. On en parle avec notre invité qui est journaliste automobile. Bonsoir, Nicolas Laperruque.
Bonsoir, Laurent.
Alors, la nouvelle Alpine, elle est fabriquée à Dieppe, en Seine-Maritime, en Normandie donc, mais l'affaire Renault n'a pas été si simple.
Alors ça n'a pas été simple puisque ça a quand même pris 22 ans entre l'arrêt des Alpines en 1995, après une dernière année de fabrication où il y en a eu seulement 14 de vendus, donc Renault avait décidé d'arrêter les frais, et la renaissance avec la présentation du nouveau proto. Alors 2017, c'est passé 22 ans effectivement.
Et alors cette activité qui te prend énormément de temps, ça ne t'empêche pas de continuer à faire de la musique ou en tout cas à chanter avec les copains? On parlait de Laurent Choubrac, Christophe Panico.
Je suis plus rien, mais par contre, on a quand même des copains qui s'appellent les Witch Doctors,
voilà.
Avec notamment JC, effectivement.
Et on a des preuves en images et en son, hein, du fait que tu viens jouer sur scène.
Et du coup, c'est super sympa, ouais, parce que ça, oui. Tu vois, un coup de temps en temps, on se fait un petit bœuf avec eux, ils sont super.
C'est clair.
Et puis c'est des mecs, c'est des tueurs, tu vois, donc. Et puis c'est des mecs gentils, tu le sais.
Oui, c'est des killers, et en plus, d'une humanité, d'une profonde gentillesse. Emmanuel Desnaux et Olivier Gébé, en plus, un quartet.
C'est des mecs qui se prennent pas au sérieux.
Mais qui font les trucs sérieusement quand même.
Oui, exactement. Ah, c'est ça. Et puis avec un niveau assez rare quand même.
Fini les yeux baissés, les voiles arrivent droit devant.
Évoquer avec toi, Nicolas, également l'artiste que tu as choisi, l'artiste qui est peut-être emblématique de ce que tu écoutes depuis des années. En tout cas, ça fait combien de temps que tu es tombé amoureux de Johnny Hallyday?
Écoute, c'est marrant, je me posais la question en moment là, toi. Ouais. Je me suis dit, c'est le genre de question Wieslard qui va me poser.
Mais tu le connais depuis toujours, en fait, c'est ça l'idée?
Mais oui, et en fait, j'ai pas le souvenir, toi,
parce qu'en 1980, lorsque tu es né, il avait déjà 20 ans de carrière.
Et en fait, j'ai le souvenir du premier album de Johnny que j'ai acheté. Mm-hmm. Alors, ça, c'était à Bercy. 89, un truc comme ça. Et je me rappelle à l'époque, c'était des cassettes. Ça valait, je sais plus.
Cassette préenregistrée.
Je voyais la cassette à Leclerc toutes les semaines.
Qui te faisait de l'œil.
Qui me faisait de l'œil. Je me rappelle, j'avais économisé pour m'acheter la cassette. Et je pense que je l'ai usé jusqu'à. Parce que les cassettes, ça s'usait, tu vois, contrairement au MP3.
Tu l'as toujours?
Et je l'ai plus, la cassette, je crois.
Mais t'as racheté le CD ou...
Oui.
Tu as combien d'albums de Johnny Hallyday chez toi, Nicolas?
Ah, je sais. Moi, je suis un mauvais élève parce que j'ai plus trop de CD, en fait. Mmh. Je suis passé au digital, je fais partie de ces cons qui payent un abonnement à Spotify.
Ah oui, mais libre à toi. Chacun fait, effectivement, il y a toutes sortes d'avis sur ces trucs-là.
Ceci dit, j'en ai quand même pas mal parce que je les ai gardés, je les ai pas foutus à la benne. Mais... C'est vrai que t'as un côté pratique, toi. Tu veux écouter n'importe quel album, t'es en bagnole, en voyage. Il y a aussi le truc que je suis jamais chez moi, donc s'il faut que je travaille mes CD.
En tant que nomade, je peux comprendre effectivement qu'on ait recours à ça parce qu'on peut pas toujours se travailler avec une valise d'albums, c'est juste pas pratique. Et alors, Johnny Hallyday, l'album que tu as choisi, c'est un truc qui a été enregistré en 1994, et c'est pas forcément l'album que ses producteurs attendaient à l'époque, c'est un album de blues.
Oui, et alors surtout, c'est un truc assez marrant, parce que, alors moi, c'est mon album préféré de Johnny, alors que c'est peut-être un des rares albums de Johnny que tout le monde aime bien détester, en fait.
Oui, et il a pas été hyper vendu non plus.
Non, je crois que, je crois qu'à l'époque, ils en ont vendu 100 000 quand même.
Oui, mais 100 000 pour l'époque, c'était normal.
Il faisait 500, 600 ou 700 000 à l'époque.
Oui, voilà.
Et quand c'était pas un million. Donc il est un peu mal aimé, tu vois. Et je pense que notre mission aujourd'hui, c'est de le réhabiliter.
Très bien. L'album s'appelle Rough Town et on a déjà écouté dans l'émission, parce que figure-toi qu'un certain Jean-Christophe Panico m'avait apporté ça en me disant: Marco, faut passer tel morceau parce qu'il y a Colin James à la guitare là-dedans. Et puis après, j'ai découvert qu'il avait partagé la scène quand même avec des gens comme Luther Allison. Enfin, faire la liste complète des musiciens avec qui Johnny a joué, c'est un travail à plein temps. On va pas le faire aujourd'hui, bien sûr, mais on peut quand même citer quelques musiciens, soit sur la tournée, soit sur l'album,
ouais, qui figurent dans ce disque. Déjà, il y a un mec que moi j'aime beaucoup, c'est Robin Le Mesurier. En fait, si tu veux, cet album-là, faut remettre un peu dans le contexte. Johnny, il venait de faire le Parc des Princes, toi.
Ouais.
Il avait fait 3 ou 4 soirs, toi. Clairement, à l'époque, c'était
pour ses 50 ans, en 93.
Ouais, c'était, ouais, c'était le seul à pouvoir faire ça, toi, à vendre
le
3.
Le seul à traverser le Parc des Princes.
Aussi, ouais.
Attends, c'est dingue, ce truc. C'est, on a ça, on a vu ça à tous sur
les
YouTube.
Les images sont folles, ce
oui,
truc-là.
Il aurait pu mourir étouffé, hein.
Oui, oui, clairement. Et Jean-Claude Camus aussi, il a failli mourir. Hein.
C'est vrai.
Lui, vraiment étouffé. Oui, oui. Donc, déjà, c'était un truc assez. Et donc, si tu veux, le gars, je pense qu'il n'y avait plus rien à prouver. Que faire après ça, tu vois? Lui, à la base, il avait prévu de prendre des vacances, tu vois. Et un des mecs qui a bossé sur l'album du Parc des Princes, c'était Chris Kimsey, qui est un producteur hyper connu aux États-Unis. Il a bossé avec les Stones pendant 30 ans. Il a mixé la moitié des. Les... Je crois qu'il a bossé avec In Excess, enfin, tous les groupes qui passaient à la radio à l'époque. Et le gars dit à Johnny, il dit, écoute, en fait, tu vas pas partir en vacances, tu vas faire un album en anglais, toi. Et donc, c'est Chris Kimsey, effectivement, qui produit l'album. Et c'est le départ aussi d'un nouveau truc pour Johnny, c'est-à-dire qu'il vire un peu tous ces musiciens qu'il avait jusqu'ici, toi, et ils embauchent une nouvelle équipe d'Américains, de Canadiens, d'Anglais, effectivement que des tueurs, quoi.
Canadiens, dont, encore une fois, Colin James. Sur cet album, on retrouve donc ce fameux Robin Le Mesurier qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
Oui, hein, oui, oui, il est mort. Et donc, lui, il a joué avec Johnny jusqu'à la fin. Toi.
Et il partageait la scène aussi avec un certain Rod Stewart.
Exactement. Hein, en fait, Johnny a piqué un peu Rod Stewart.
Les Écossais, ils n'aiment pas quand on leur pique quelque chose.
Et oui, oui. Et donc, il y a eu une anecdote assez marrante, c'est que Rod Stewart a essayé de le récupérer après la tournée, toi. Et l'autre lui a dit, non, je crois que je vais rester avec Johnny. Et donc, c'est marrant, tu vois, déjà. Parce qu'en fait, chez nous, il y a toujours un petit malentendu quand même avec Johnny, toi, et les musiciens. C'est-à-dire que on aime bien, les gens aiment bien lui chier dans les bottes.
Oui, mais
en fait, aux États-Unis, les mecs, ils respectent vraiment le gars, toi. Et donc, il a essayé de le récupérer plusieurs fois. Et donc, à la fin, la légende dit que Rod Stewart, avant de faire une tournée, a appelé Johnny pour savoir ses dates, pour savoir s'il pouvait le récupérer.
Mais c'est vrai que Johnny Hallyday, il a toujours suscité des sentiments contrastés. Il y a des gens qui l'adorent, bien entendu. Il y a tous ses fans qui sont toujours très nombreux, même s'il est décédé déjà en 2017. Je pense que ça va durer encore pendant plusieurs décennies. Et il y a aussi des gens qui aiment le détester. On va dire, en même temps, il y a une popularité tellement extraordinaire. Il y a par exemple cette anecdote que me racontait une fois Paul Persson, parce que Paul Persson était sur la scène du Parc des Princes,
ouais.
En 93, et juste après, peut-être une quinzaine de jours après, il part en tournée pour son propre compte, et il arrive en Auvergne dans un patelin paumé. Paul Persson, il sort de sa voiture, il va pour faire le plein, et là le pompiste arrive, il dit, mais je vous reconnais, vous jouez avec Johnny Hallyday. Et là, tu dis, ouais, je m'appelle Paul Persson. Ouais, je vous fais le plein gratuit, j'adore Johnny Hallyday.
C'est énorme,
tu vois, à 600 bornes du truc. Voilà, non, mais Johnny, il a suscité beaucoup de sentiments contrastés et d'inimitié, mais il a aussi fédéré sur le fait que quand on le connaissait, c'est pas mon cas, mais pour avoir discuté avec des gens qui ont joué avec Johnny, comme Greg Slapp, Fred Chapelier, Yarol Poupeau, ce sont des gens qui le respectent, mais pas seulement de fait de sa notoriété, mais aussi de sa grande humanité. Quoi.
Oui, clairement. Ouais. Mais toi, là, dans mon autre métier, j'ai interviewé il y a 15 jours André Dossoud,
ouais.
C'est un mec qui parle
Agathe Saint-Lô,
Agathe Saint-Lô qui a fait le Dakar pendant 35 ans, quoi.
Et ça nous ramène à Johnny Hallyday, il a fait le Dakar
et donc c'est avec René Metsch, ouais.
Avec René Metsch, t'as raison.
Donc c'est lui qui a préparé sa bagnole et il m'a raconté plein d'anecdotes que je ne peux pas raconter ici, mais il m'en a raconté une qui est assez révélatrice du mec. C'est que donc ils font le Dakar, ça dure 15 jours 3 semaines, tu vois, c'est un peu dur quand même, tout le monde est certain que le mec va abandonner au bout de 2 jours,
quand tu dis le mec, c'est Johnny Hallyday.
Au final il va au bout du truc, toi, ouais. Et André Dessoud me racontait, il me dit, bon, il dit, voilà, toi, on lui explique que pendant 15 jours, faut pas picoler, toi. Donc le gars, il se pointe sur le Dakar, il boit pas une goutte pendant 15 jours. Johnny avait dit à André Dessoud, il a dit, par contre, je te préviens, mon petit bonhomme, c'est que si j'arrive à Dakar, là, on va s'en faire une. J'espère pour toi que tu es prêt. Et donc, ils arrivent à Dakar et ils sont invités, au final, le jour de l'arrivée, ils sont invités au palais présidentiel du président Sénégal. Du Sénégal, toi, qui les oblige un peu à venir, toi. Johnny fait un peu la gueule. Et il fait encore plus sa gueule que les Arrivals. Du thé vert, en gros, ou de l'eau, quoi. Et Johnny a un avion, il doit repartir, machin, et il est un peu frustré, toi. Ouais. Et en fait, un mois après, il a appelé André Dessoud, il a dit, écoute, j'ai un resto à Paris, je le ferme complètement. Toi, tu fermes ton garage, tu fais venir tous tes employés. Il les a fait venir à Paris, toi, il leur a envoyé un bus, il a fermé son resto, il leur a fait un concert de 3 heures.
Ouais, terrible. On se souvient de cette petite anecdote aussi sur le Dakar, où un journaliste arrête la voiture à l'arrivée d'une étape. Bah, tu vois tout de suite de quoi je vais parler. Où Johnny dit, putain, c'est con, si on n'avait pas perdu une heure et demie, ça ferait une heure et demie qu'on serait déjà arrivé, quoi. Ouais, ça a fait le tour du net plusieurs fois.
Si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
C'est ça l'idée.
Après, bon, toi, ça fait partie de la difficulté, tu vois, de genre de personnage. C'est que le mec, en fait, est en permanence filmé, si tu veux. Et quand il y a un mec qui te tend un micro et que tu viens de te taper 10 000 bandes dans le désert, toi, depuis une semaine, et que t'as dormi à peu près 2-3 heures par nuit, et que t'as déjà. À l'époque, il avait déjà 60 balais. Hein. Bon, t'es susceptible de dire une connerie, toi.
Oui, mais ça reprise.
Mais lui, c'était pas le dernier, ceci dit. Il avait un naturel.
Si on revient sur cet album, Nicolas, qui s'appelle Rough Town, donc la. Je sais pas comment tu traduirais ça, Rough Town, la ville dure.
Ouais, c'est ça, oui. Littéral, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
On retrouve aussi un certain Chuck Leavell au clavier. Enfin, oui. Tu l'as dit, il a changé tous ses musiciens. Chuck Leavell, il continue à jouer avec Clapton, mais il le fait depuis plusieurs décennies.
Fou. Et en fait, si tu veux, cet album-là, ils l'ont fait donc à Los Angeles, toi, avec le producteur des Stones et les meilleurs musiciens qui avaient de dispo à l'époque. Toi. T'as des chansons d'ailleurs, je crois que t'en as une ou deux de Bryan Adams là-dedans. Enfin, t'as des mecs incroyables qui ont écrit pour cet album, toi. Donc, grosse prod quand même, et en même temps, petit malentendu, je pense, avec la maison de disques, qui vit finalement, chez Universal à l'époque, je pense qu'ils avaient pas du tout envie de s'emmerder à lancer le truc à l'international, parce qu'il y avait un peu ça derrière, toi.
Ouais.
L'idée, c'était un peu d'aller vendre le truc à l'étranger, toi. Et donc, il s'est pas très bien vendu. Mais il y a un truc extraordinaire avec cet album. Il y a un documentaire. Il y a une tournée après. En fait, Johnny venait de faire le Parc des Princes et il s'est dit, bah, tiens, on va faire que des petits clubs en Europe, toi.
Ouais.
Donc, des salles de 1000-2000 personnes, toi. Enfin, ce qui pour nous, on serait content, mais pour lui, c'était
une salle.
Et donc, il a été joué en Allemagne, il a été joué à Amsterdam, il a été en Suisse, il a été joué, je crois, un peu dans le nord de l'Europe. Et ils ont fait une tournée dans des petites salles un peu partout en Europe, toi. Et il y a un documentaire pour ceux qui s'intéressent au sujet qui est extraordinaire qui s'appelle All Access qui suit en fait en noir et blanc cette D'accord. petite tournée. C'est juste c'est un des meilleurs trucs sur Johnny. Toi, le mec a filmé juste avec une caméra, ils le suivent un peu dans tous ces petits plans.
Il y a tout plein de façons de voir Johnny Hallyday. Moi qui l'ai vu une seule fois, en plus j'ai vu un timbre-poste, c'était à la Tour Eiffel, on était 2 millions.
Ah, oui.
Toi, tu l'as vu plus de 20 fois.
Ouais.
Tes meilleurs souvenirs de concert de Johnny?
Ah, moi j'ai vu beaucoup à Caen, toi.
Ouais,
parce qu'à chaque fois il passait par Caen et souvent
il est jamais venu au Sous-Bock, figure-toi.
Non, foiré. Il a peut-être pas trouvé la route. Souvent. Non, mais il venait à Caen et il commençait souvent les tournées par Caen d'ailleurs.
Ouais, bah comme beaucoup. Hein,
et il revenait souvent à la fin, toi. Tu sais
pourquoi?
Bah oui, parce qu'on dit tout le temps que le public canet est un bon test.
Oui. Mais Eddie Mitchell le disait énormément aussi. Il a commencé toutes ses tournées depuis que le Zénith existe en 93. Toutes les tournées d'Eddie Mitchell commençaient par Caen. Johnny, c'est pareil. Et parce que quand on plaît au public canet, on plaît au tout le reste de la France.
Il y en a plein qui font ça, c'est marrant.
Mais oui.
Et souvent, il jouait deux fois, donc en général, je vais le voir deux fois.
Ah ouais. Les meilleurs musiciens qui ont joué avec Johnny, les gens qui t'ont ébloui, c'était qui?
Bah, on parlait tout à l'heure de Robin Lemesurier, mais j'adorais ce mec-là, toi.
Ouais.
Parce qu'il avait c'était un vrai bluesman, toi. Et puis il avait une tronche pas possible. Plus il vieillissait, plus il ressemblait à Keith Richards, je trouvais, toi, à côté. T'es marrant, il était toujours avec sa clope, là, il mettait sa clope au bout de son manche de guitare, ça me faisait marrer. Mais il y a eu tellement de mecs quand je jouais avec lui, c'est un peu compliqué, toi. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin aussi.
Avec Greg?
Ouais. Et Yarol Poupeau, toi.
Ouais.
Je trouve qu'ils ont un peu. Il avait toujours cette faculté à. Des fois, tu voyais, il virait un peu tout le monde, tu te demandais un peu pourquoi. Puis en fait, tu avais les autres qui arrivaient derrière, tu dis, ah oui, je comprends ce qu'il a voulu faire.
Et alors, en 2014, puis en 2017, est-ce que tu avais vu les vieilles canailles?
Ouais, je suis allé voir les vieilles.
Donc avec Fred Chapelier à la guitare.
J'ai pas vu la toute dernière tournée. Il y a eu deux fois les vieilles canailles. Donc,
oui.
Donc la dernière fois, le dernier
c'était
été.
C'était en 17.
Ouais. Et j'ai vu celle d'avant, et c'était marrant, toi. C'était rigolo.
Avec Jacques Dutronc.
Ouais, c'était vraiment bien.
C'est la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes.
pour exprimer ce que le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, les mains noires lui donnaient le jour pour sortir les peines et les espoirs, pour sortir Dieu et puis l'amour.
On va rappeler aussi au chapitre du line-up sur les musiciens qui figurent dans cet album Rough Town. On retrouve Greg Piccolo, Rich Lataille, Bob Enos, des cuivres. Enfin, il y a pléthore de musiciens, mais ceux-là, ils ont fait leurs premières armes il y a 50 ans avec les Room Full of Blues. Ça nous ramène au sujet quand même, parce que My Rocker, c'est dans une émission de blues. Il a pris des musiciens qui savent tout faire, y compris le rock. Parce que quand tu sais faire du blues, c'est pas forcément faire autre chose. Ça dépend,
oui,
ça dépend
oui,
des
oui,
musiciens.
Oui, oui.
Ces mecs-là sont des purs jazzeux aussi. Ça fait une espèce de mixture complètement magique. Enfin, ce disque-là, c'est peut-être l'album de Johnny que j'ai le plus écouté, moi qui suis beaucoup moins fan que toi, bien évidemment. Et puis, il a fait un autre album blues un petit peu plus tard, je veux dire, début des années 2000.
En français, enfin, il y avait un ou deux titres en anglais, d'ailleurs. Là, c'est marrant, dans l'autre album, il y a un truc assez rigolo. C'est la seule chanson que Bono a écrit pour un autre mec.
D'accord.
Il a écrit un titre dans cet album-là qui s'appelle I Am The Blues.
Long black car through the empty park, feel like a rainbow in the dark. I got $1 million and a broken heart. Someone out there could use. They know my name, the thieves and louts. They got no soul, just take door and house. And you're not even as old as my tattoos. I am the blues.
Il avait été voir Johnny sur scène à Monaco et le mec est devenu fan de Johnny. On le sait pas, ça, tu vois.
Alors, il a écrit, Bono, il a écrit deux chansons pour quelqu'un d'autre.
Ah.
La deuxième, c'est pour B.B. King. C'était sur l'album qui.
Je l'ignorais, toi.
C'était en 1987, ils avaient enregistré chez Sun Records. Ensuite fait une tournée ensemble, U2 et B.B. King en première partie.
Ah oui, exact. Mais je ne savais pas qu'il avait écrit un titre.
Et il y a un titre qui a été coécrit par Bono, mais
d'accord.
Voilà. Et donc, pour revenir à Johnny, voilà, on aurait pu hésiter. Il y a combien, 12 morceaux en tout.
Alors,
quels sont les titres que tu aurais voulu lui faire entendre?
En fait, ils avaient refait ils avaient rajouté trois. Il y avait trois morceaux qui n'avaient pas été retenus sur l'album.
Trois morceaux bonus, ouais, exact.
Qui a été remis après dans une édition qui est ressortie après.
En 2000.
Ouais. Ouais. Moi, il y en a un que j'adore, c'est Full for the Blues.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet-là, parce que nous, on la reprenait sur scène avec Sylvain Gambini et compagnie. Et on avait mis une vidéo sur YouTube un jour.
D'accord. Elle y est toujours ?
Doit toujours y être, je suis pas certain.
On ira voir.
Ouais, on ira voir. Et Robin Le Mesurier m'avait envoyé un mail, dis donc.
Ah oui,
ouais,
c'est fameuse
marrant.
Anecdote.
C'est génial, ça. Tu travaillais le matin, t'as un mail de Robin Le Mesurier.
Et il te dit, mais comment ça se fait que tu reprends ce morceau-là ?
Il me dit, écoute, t'es le seul mec sur YouTube à avoir repris ce truc. Et du coup, on avait un peu échangé. Et il m'avait dit, mais tes guitaristes sont extraordinaires. Et il avait rajouté un truc, il m'a dit, elles sont de ta vidéo vraiment pourries. Il avait raison. Mais ouais, c'était assez marrant.
Alors, si tu avais dû choisir un autre titre, il y a peut-être d'autres morceaux comme ça.
Il y a
Dry Spell, notamment.
Ouais, ça c'est.
Il y a un morceau de Colin Jay.
Il y a un morceau qui est un peu, qui est à la limite du hard rock, c'est assez marrant, c'est Rough Town. Et le reste, c'est des morceaux de blues magnifiques. Effectivement,
Rough Town, tu évoquais Brian Adams, c'est lui qui l'a.
Et oui, exactement.
Ouais. Eh ben, on écoute ça, on va écouter Full for the Blues en entier. On a déjà écouté quelques extraits, bien sûr, de cet album tout pendant cette conversation. Avec toi, Nicolas Laperruque, amateur de musique et grand fan de Johnny Hallyday, chanteur et journaliste automobile. J'ai oublié d'autres hobbies.
Oh, bah non, parce que déjà, quand t'es journaliste auto, t'as pas trop le temps d'avoir d'autres hobbies. Non, d'autres hobbies, l'alcool.
Oui. Mais ça, c'est un truc que tu fais à mi-temps.
Ouais, ouais, je peux pas, j'ai plus le temps de faire ça à temps plein. Non, mais oui.
Quand est-ce qu'on te revoit sur une scène?
Ah, ça, c'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Mais de temps en temps, ça me titille, toi.
Remonter un groupe à toi.
Ouais, ouais.
Avec ton répertoire.
En fait, le problème que j'ai, c'est que si tu veux faire ça bien, il faut
avoir tous ces week-ends de libre.
Voilà. Faut y consacrer du temps. Pouvoir compter aussi sur d'autres gens, puisque tu te faut des musiciens. Et pour l'instant, j'ai pas ce temps-là. Puis j'en ai de moins en moins. Donc, bon, oui, ça va être compliqué.
Eh ben, on va continuer à te voir sur les planches que foulent régulièrement les Wish Doctors pour
deux ou
trois morceaux de Johnny.
Oui. Mais tu sais que depuis que Johnny est mort, mon idole, c'est Jean-Christophe Panico.
Ah, ça lui fait plaisir.
Il était numéro 2 sur la liste, et puis il est remonté.
Il est remonté numéro 1. Ouais. C'est logique.
Ce garçon est extraordinaire.
Merci, Nico. À très bientôt.
Merci.
I'm still a fool for the blues.
Merci à toi Nicolas Laperruque. On a écouté avec toi Laurent Choubrac, Répétition, extrait de La Parenthèse. Également trois extraits de ton album Un singe en hiver avec Boomerang, Piscine et Je tutoie les anges, donc de Nico Laperruque. Jacques Perrotte avec l'agenda culture et cette interview de Nicolas Laperruque chez France 3 également à propos de la Renault Alpine. Les Wish Doctors, Je te le dois. Johnny Hallyday avec Dry Spell, extrait de Rough Town. Les Vieilles Canailles, bien sûr, Toute la musique que j'aime en 2017. Johnny Hallyday, I am the blues, extrait du Cœur d'un homme en 2007. U2 et B.B. King, When Love Comes to Town, édité en 1988 sur l'album Rattle and Home de U2. Et puis en entier, Fool for the Blues de Johnny Hallyday. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième heure avec Lenny Lafargue.